RFI 6h30, à Kalemi 5h30, à Kinshasa. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Le journal d'actualité africaine à la une. Sébastien, la situation en RDC, la guerre dans l'est de la RDC.
Oui, avec un point tout d'abord à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où le chef d'état-major des armées congolaises vient d'effectuer un déplacement pour rassurer la population. Et cela après une panique sur place la semaine dernière. La RDC, où les députés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema ont donné de la voix hier à l'Assemblée nationale. Ensemble, ils dénoncent les crimes du M23. La guerre au Soudan et l'immense crise humanitaire qu'elle entraîne dans son sillage, au cœur d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies hier à New York. Un choc à Madagascar, l'assassinat d'une élue du parti présidentiel tuée par balle en fin de semaine dernière dans le centre du pays. Le sommet Finances en commun qui s'est ouvert hier au Cap, le rendez-vous des banques de développement, à l'heure où l'aide au développement justement semble n'avoir jamais été aussi menacée avec le recul américain, notamment après le journal. Notre reportage sur le programme pour sauver la forêt de Bouskoura au Maroc, le poumon vert de la capitale économique Casablanca menacée par la sécheresse. Et puis l'actu sport au programme, comme tous les jours bien sûr, soyez les bienvenus. Mais donc, tout d'abord, la situation à Kalemi pour débuter ce journal. Le chef-lieu de la province du Tanganyika, dans l'est de la RDC, théâtre d'une forme de psychose. Il y a une semaine, lorsque des militaires congolais sont massivement arrivés sur place, des FARDC engagés dans un mouvement de repli face à la progression plus au nord, dans la province voisine du Sud Kivu, de l'AFC M23, soutenu par le Rwanda. Mais le chef d'état-major de l'armée congolaise s'est donc rendu sur place, il y a 3 jours, à Kalemi. Il a voulu se montrer rassurant. On fait le point avec Passion Ligodi.
Plus de 2500 militaires ont débarqué à Kalemi par voie lacustre en provenance d'Ovira en raison de l'avancée de l'AFC M23. Selon des sources locales, ceux qui étaient armés ont été désarmés dès leur arrivée au port. Parmi eux, on dénombre au moins 200 blessés. Ces soldats sont actuellement regroupés au camp militaire marin où ils sont encadrés et réarmés moralement, selon le maire de Kalemi, David Mukeba, qui a confirmé à RFI qu'ils seront bientôt redéployés au front. Dans la ville, le dispositif sécuritaire a été renforcé, notamment autour du port et dans les points stratégiques. La sécurité est sous contrôle sur toute l'étendue de la ville, a assuré le maire. Les autorités locales tentent également de rassurer la population, affirmant qu'elle reste sur place et ne compte pas quitter la ville. Sur le plan économique, les activités portuaires ont repris, mais la circulation des marchandises reste perturbée. Des pénuries commencent à se faire sentir sur le marché, notamment pour certains produits alimentaires provenant de Goma et Bukavu via Uvira. Cette rareté a entraîné une hausse des prix. Face à cette situation, une réunion est prévue ce jeudi au gouvernorat. Elle rassemblera les autorités locales, la Fédération des entreprises du Congo et la société civile.
Passion Ligodi. Et dans ce contexte de guerre, un appel lancé d'une même voix hier à l'Assemblée nationale congolaise. Les députés du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et du Maniema ont dénoncé les crimes commis par les éléments du M23. Après l'audition de responsables de l'armée et d'autres services de sécurité, le message des députés a été délivré par l'un d'entre eux. Il s'agit de Claude Missaré, élu d'Uvira. Je vous propose de l'écouter.
Considérant la dégradation de la situation sécuritaire caractérisée notamment par la violation massive des droits humains, les assassinats ciblés, condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent, condamnant les massacres à grande échelle des populations civiles, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continuent, condamnant les recrutements forcés des jeunes dans les M23 AFC, plus particulièrement des élèves de Goma et de Bukavu. Déplorons et condamnons les pillages systématiques des biens des populations civiles et de l'État congolais prenant la destination du Rwanda ainsi que la destruction de plusieurs infrastructures sociales. Invitons le gouvernement de la République à rendre plus performantes nos forces de défense et de sécurité et à renforcer l'unité et la cohésion nationale. Invitons le procureur de la Cour pénale internationale à mener ses enquêtes avec impartialité afin que tous les auteurs soient poursuivis et condamnés.
Les mots du député congolais Claude Missaré. Un autre appel également, celui du procureur de la Cour pénale internationale qui a fait hier une visite en RDC. Son bureau a ouvert une enquête sur d'éventuels crimes de guerre et il invite toutes les parties au conflit à respecter la loi. Karim Khan évoque par ailleurs l'idée de créer de nouvelles structures comme un tribunal pénal international pour le Congo. Et pendant ce temps, la vie quotidienne se poursuit un peu moins d'un mois après la prise de Goma, alors que l'insécurité règne encore dans plusieurs quartiers de la ville. Eh bien, de l'autre côté de la frontière, sa jumelle rwandaise, Gisenyi, accueillait hier l'arrivée de la troisième étape du Tour cycliste du Rwanda. Dans une ambiance relativement apaisée, presque comme si de rien n'était, Thomas de Saint-Léger.
Depuis leur mirador, les gardes-côtes regardent passer la course. Toute proche, Goma paraît pourtant si loin et les coureurs comme Milan Doni n'ont rien senti de particulier.
Non, je vois rien de guerre ou des choses comme ça ou non.
Et pourtant, dans une bien moindre mesure, à Gisenyi aussi, des bombes sont tombées le mois dernier. Théophile habite ici. Il vient voir la course pour profiter et oublier.
Il y a déjà qui sont morts, les autres sont blessés, même on a détruit quelques maisons. Mais aujourd'hui, pas de problème. Même ici à Gisenyi, il y a des Congolais qui traversent pour la fête des cyclistes.
Effectivement, même si sortir de leur ville reste dangereux, des cyclistes congolais sont là, plus discrets, moins nombreux que ces dernières années. Daniel est l'un d'eux.
Je suis venu regarder les champions, les professionnels, parce que je suis passionné du vélo.
Et parmi ces champions, des Rwandais avec qui Daniel avait l'habitude de s'entraîner. Entre eux, le contact est maintenu.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est les sports. Donc on parle seulement du sport. La politique, ça nous touche. Ça nous touche quand il y a la guerre, quand nos proches sont tués. Mais ça ne donne pas l'autorisation de prendre les autres comme nos ennemis.
Daniel dit aujourd'hui ne vouloir qu'une chose, la paix, pour pouvoir revivre et rouler. Thomas de Saint-Léger, Gisenyi, RFI.
Des dizaines de milliers de morts, plus de 12 millions de déplacés, près de 25 millions de personnes en insécurité alimentaire aiguë. Ça, ce sont les chiffres plus que préoccupants au Soudan, où se poursuit la guerre débutée il y a bientôt 3 ans, à l'heure où l'armée du général Al-Burhan enregistre des avancées contre les FSR du général Hemeti, dans la capitale, Khartoum notamment. Eh bien, cette guerre était à nouveau sur la table du Conseil de sécurité des Nations Unies, hier à New York. Sur place, compte rendu de Karine Houten.
Hasard de calendrier, le Conseil de sécurité s'est réuni sur la guerre au Soudan alors que le Programme alimentaire mondial a annoncé suspendre ses opérations dans le camp de déplacés de Zamzam à l'ouest du pays. Le camp est pourtant frappé par la famine, mais la violence des combats depuis l'attaque des paramilitaires de FSR le 11 février l'a obligé à rapatrier ses équipes. Le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU a expliqué à New York que de toute l'histoire, l'organisation n'a jamais dû autant solliciter les pays pour soutenir le Soudan. Pour subvenir aux besoins de 21 millions de Soudanais en 2025, elle doit lever 6 milliards de dollars. Par ailleurs, le Conseil s'est inquiété de la création sur le papier d'un gouvernement parallèle par les paramilitaires du FSR et leurs alliés il y a quelques jours. Il craint une fragmentation, voire une partition du pays. Les pays africains du Conseil ont exhorté les FSR à préserver l'unité et l'intérêt national. Le Soudan a accusé le Kenya d'avoir reconnu ce gouvernement et de violer la charte de l'ONU, ce que le Kenya a démenti. Karine Houghton, New York, RFI.
Un assassinat qui provoque une onde de choc sur la scène politique malgache. L'assassinat d'une élue du parti présidentiel, tuée par balle en fin de semaine dernière dans le centre de la Grande Île, dans une région confrontée de longue date à la violence, celle bien connue notamment des voleurs de zébus, généralement à main armée. 6 suspects ont déjà été interpellés dans cette affaire, mais reste désormais pour les enquêteurs à déterminer les motivations de cet acte. À Antananarive, récit de Guilhem Fabry.
C'est au lendemain de son investiture comme maire de la commune rurale de Mangatabouang que Narinja Niainar, à Nivouarivoni, 31 ans, a été tué par un groupe d'assaillants lourdement armés. Dans les régions rurales en proie au vol de zébus, les maires sont particulièrement vulnérables, souligne le professeur d'histoire contemporaine Jeannot Rassolo-Harisson.
Les maires délivrent des papiers qui atteste la propriété du zébu. Avec le phénomène de vol de zébus, le maire refuse quelquefois de délivrer les papiers lorsqu'il constate que c'est pas bien prouvé l'origine des zébus à vendre. Et c'est là parfois l'origine de la violence à l'encontre des maires.
Pour Estelle Andjiamassi, présidente du Conseil national des femmes de Madagascar, cet assassinat est surtout emblématique des violences que subissent les rares femmes qui osent se lancer en politique.
La plupart des femmes en politique subissent des menaces. Et on a collecté beaucoup de cas de violence racontés par les femmes qui se présentaient comme candidates. C'est un grand défi à Madagascar, l'accès des femmes au pouvoir politique tout ce qui se passe là nous renforce encore à aller plus loin pour arriver à cette participation des femmes. Nous n'allons pas baisser les bras.
La police nationale a annoncé la mobilisation de renforts dans la région d'Amoroni-Mania où s'est produit l'assassinat afin de lutter contre l'insécurité. Guillaume Fabriant, Tananarive, RFI.
La brouille entre la France et l'Algérie. Avec cette annonce hier soir, le Premier ministre français affirme que Paris va demander à Alger de réexaminer des accords migratoires entre les deux pays. Tension relancée il y a quelques jours par l'attentat de Mulhouse en France, commis par un ressortissant algérien sous obligation de quitter le territoire français. Un ressortissant pourtant envoyé à 14 reprises par l'Algérie, selon François Bayrou, le Premier ministre français. Jour 2 au Cap en Afrique du Sud, avec la suite attendue aujourd'hui du sommet Finance en commun, rendez-vous qui réunit plus de 500 banques de développement de la planète. Cinquième édition du nom qui se tient cette année en parallèle d'une réunion des ministres des Finances du G20, car l'Afrique du Sud en assure cette année la présidence tournante. Hier matin, en ouverture, le président sud-africain s'est inquiété de l'érosion du multilatéralisme. Cyril Ramaphosa y voit une menace croissante, une menace à la croissance et à la stabilité. Cyril Ramaphosa appelle donc à une meilleure collaboration avec le secteur privé via des mécanismes innovants, Valentin Hugues.
Et c'est une réunion entre différents investisseurs du G20 pour demander plus de collaboration entre le secteur public et le secteur privé. John Danton, secrétaire général de la Chambre internationale de commerce.
Nous nous dirigeons vers un moment charnière en 2025. Notre rôle, c'est de veiller à ce que les gens vivent dans des économies qui fonctionnent. Nous accompagnons le secteur privé et les gouvernements doivent agir de manière à créer un environnement favorable aux investissements.
Favoriser le secteur privé, c'est par exemple ce qui a été mis en place par l'Afrique du Sud avec des subventions pour les entreprises qui investissent dans les énergies renouvelables. Boitumelo Mosako, présidente de la Banque de développement d'Afrique australe.
En Afrique du Sud, par exemple, la Banque publique de développement et le gouvernement ont décidé de créer un environnement favorable à l'investissement dans les énergies renouvelables pour pousser le privé à investir. C'est un exemple marquant quand on crée un environnement